Bonjour à tous. Ça fait quelques années que je ne suis pas venu à Quévin me réjouir avec vous. Et je me réjouis ce matin de la présence du Seigneur. C'est encore une grâce de pouvoir vivre ces moments ensemble. Et je voudrais remercier aussi, bien sûr, Jean-Marc et Francine pour leur accueil fraternel. On mange bien chez eux, vous savez. On n'a pas encore fini. Hein. C'est bien qu'on parte aujourd'hui, hein, quand même. On ne se voit pas souvent, c'est vrai, mais notre amitié reste intacte. Il y a une amitié, il y a une communion, il y a aussi des temps de partage, et c'est vraiment quelque chose de précieux de vivre ces moments que nous avons vécu, en tout cas, ces derniers jours. Merci de me permettre de vous transmettre la pensée de Dieu. Oui, je le dis, la pensée de Dieu, pas la mienne. C'est important de pouvoir le dire aussi. Et je veille pour que ce que je vais vous partager ce matin puisse être ce que Dieu vraiment a mis sur mon cœur. C'est d'ailleurs ce que Paul dit aussi dans sa lettre aux Corinthiens, dans sa première lettre. Car je n'ai pas eu parmi vous la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est le message essentiel de l'Évangile, n'est-ce pas ? Que Jésus-Christ fut crucifié pour nous et ressuscité pour nous. Alléluia. Il y a bien un message qui sera toujours d'actualité et qui ne change pas. Ce ne sont pas, bien sûr, les supporters du match de foot que nous voyons à la télévision, hein, qui crient, hein, dans les tribunes. Non, allez les bleus, ça n'a rien à voir. Même si c'est intéressant, alors je fais attention aussi aux amateurs de foot ce matin. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de foot. Il y a des amateurs de foot. Mais c'est bien plus que cela, n'est-ce pas ? C'est bien plus que cela. C'est le message que Dieu adresse à tous les hommes depuis l'origine des temps. Et dont l'Église est appelée, bien sûr, aussi à transmettre ce message. Le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, l'Évangile. C'est le message de la grâce de Dieu. Et ce message que nous sommes appelés à transmettre et à partager aux autres qui ne connaissent pas cette grâce, c'est un message porteur de vie, de vie et d'espérance, bien sûr, mais aussi parce que Dieu lui-même est la vie et qu'il nous transmet la vie au travers de son Fils. Et son appel aujourd'hui, encore aujourd'hui, en 2018, cet appel à rencontrer Dieu en Jésus-Christ, eh bien cet appel est encore aujourd'hui d'actualité pour toute l'humanité. Pour nous ici en Bretagne, pour vous ici en Bretagne, mais aussi parmi toutes les nations. Alors j'aimerais partager quelques lectures avec vous ce matin dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Le chapitre 4 de l'évangile de Luc. On parle de Jésus qui est au verset 14. Dans les versets précédents, il nous est parlé de ce Jésus qui fut conduit par l'Esprit et rempli du Saint-Esprit, mais conduit aussi par l'Esprit dans le désert où il a été tenté par le diable. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais au verset 14, il nous est dit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avait les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» J'arrêterai la lecture là, même si la suite, bien sûr, nous semble intéressante concernant le Seigneur lui-même qui va intervenir. Nous pouvons être de ceux qui vivent dans la nostalgie du passé. La nostalgie du passé, ou en tout cas la nostalgie, c'est un sentiment de regret des temps passés, ou de lieux disparus ou devenus lointains, auxquels on associe des sensations agréables, souvent a posteriori. Ce manque est souvent provoqué par la perte ou le rappel d'un de ces éléments passés. Nous pouvons dire « Ah, en ce temps-là », n'est-ce pas ? Ou de mon temps, je me rappelle, ça a bien changé. Autrefois, on faisait autrement. Et puis, il y a la nostalgie, bien sûr, des choses vécues avec Dieu dans les temps passés. On nous a dit que quand j'avais 20 ans, quand j'étais jeune, quand j'avais 30 ans, je me rappelle ces belles années où dans l'église du Seigneur, eh bien, le Seigneur agissait, il opérait des miracles, il y avait des guérisons, le Seigneur parlait peut-être plus souvent par voix prophétique, et je me réjouis ce matin en tout cas d'entendre que la voix prophétique est manifestée, est opérée. La bonne nouvelle était annoncée et des cœurs se tournaient vers le Seigneur. Ah, autrefois, nous vivions de belles choses dans le Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai souvent entendu, peut-être aussi dit, même moi-même aussi, ces choses en disant, mais oui, c'est vrai, dans le passé, on a vécu des choses. Et on a souvent entendu ce genre de conversation concernant les choses que le Seigneur pouvait accomplir. Mais peut-on revenir sur le passé? Moi, je dirais non, n'est-ce pas? Vous avez le droit aussi de répondre. Dieu a-t-il changé dans son action? Je dirais oui. Ah non, d'accord. Est-ce que la puissance de Dieu a changé? Je dirais la nostalgie du passé, parfois et souvent, bien sûr, nous empêche de regarder le présent et l'avenir d'une manière positive, n'est-ce pas? Lorsque nous regardons en arrière, c'est difficile de regarder devant. Et parfois, il y a danger de trébucher. Et il est impossible de voir ce que nous pouvons voir, en tout cas devant nous. Avons-nous un regard de foi ou avons-nous un regard, quelque part, un peu comme la femme de Lot qui, à un moment donné, est sortie de Sodome et de Gomorre et qui s'est retournée alors qu'on lui disait, on lui demandait avec Lot de monter sur la montagne. Elle a regardé vers Sodome et Gomorre et elle est devenue une statue de sel. Parce qu'elle était encore attachée aux choses qui allaient disparaître. Dans les versets précédents, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert. Alors qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a passé 40 jours et 40 nuits tenté par le diable. Il a été confronté à une opposition spirituelle pour l'empêcher d'accomplir le plan de Dieu. Mais le Seigneur, à chaque tentation, il nous a dit dans ses versets précédents, du chapitre 4, chaque tentation du diable, il affirmera et confirmera sa position de fils de Dieu par la parole écrite, la parole annoncée. Où il dira d'ailleurs à chaque tentation, il est écrit, il est écrit. Je crois que cela nous encourage aussi à nous, enfants de Dieu, chrétiens, qui peut-être parfois traversons des déserts. Et je pense aussi que le désert parfois sont conduits et permis aussi par Dieu pour nous apprendre et pour nous former, pour nous corriger, pour nous enseigner. Pour que nous puissions affirmer aussi et affirmer notre foi, mais aussi confirmer, même devant les puissances ténébreuses, même devant l'adversité, eh bien, affirmer et confirmer devant le tentateur que notre position est en Christ. Alléluia. Que notre position est en Christ. nous sommes en Christ. Nous devons et nous pouvons aussi l'affirmer. Lorsque Jésus entre dans la synagogue, il nous est dit qu'il est revêtu du Saint-Esprit. Il n'est pas seulement rempli, comme nous l'avons vu nous le voyons dans le début du chapitre 4, mais il nous est dit qu'il fut revêtu. C'est aussi, bien sûr, cette promesse que nous avons reçue, que Jésus lui-même va annoncer dans l'évangile de Luc au chapitre 24 à ses disciples. Il leur dit, or vous êtes témoins de ces choses, et moi j'envoie sur vous la promesse du Père, et vous demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, et cette promesse s'accomplira, et vous le savez tous, le jour de la Pentecôte. Et lorsque Jésus a lu ce passage du prophète Ésaïe, il y a plus de 700 ans que cette parole prophétique a été annoncée avant la venue du Messie. Et il nous est dit au verset 20 que tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui, comme s'ils attendaient quelque chose de particulier. Tout cela avait les regards fixés sur Jésus. Jésus va dire quelque chose qui va provoquer des réactions différentes. J'essaie de m'imaginer un petit peu la scène avec tous ces religieux dans cette synagogue qui entendaient le Seigneur parler et prononcer ces paroles d'Ésaïe. Et ils avaient les regards fixés sur lui. Et Jésus va annoncer une parole, va dire quelque chose qui va provoquer des réactions. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre, parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, est accomplie. Est accomplie. Et à la suite de cela, il nous a dit que tous lui rendaient témoignage, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. C'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe qui va avoir lieu là au moment où Jésus prononce ces paroles, où le ministère du Seigneur commence à partir de ce moment-là, où Jésus va exercer son ministère terrestre, bien sûr, parmi les hommes. C'est de lui dont parle ce passage d'Ésaïe, de Jésus, le Messie, l'envoyé, le oint du Saint-Esprit, pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer la délivrance et donner la vue aux aveugles, pour rendre libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Nous sommes encore aujourd'hui dans cette année de grâce, ou dans ce temps de grâce, de la grâce de Dieu qui nous est offerte gratuitement, alors que nous ne méritons pas, mais que cette grâce nous est offerte en Jésus-Christ. Jésus est entré lui-même au travers de ce moment, il est entré dans le plan éternel du Père, pour faire la volonté du Père jusqu'au bout, jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix, pour en sortir vainqueur par la résurrection. Mes amis, ce matin, nous pouvons faire le choix de vivre dans l'accomplissement du plan de Dieu dans nos vies, ou pas. Nous pouvons faire aussi le choix de ne pas vivre dans l'accomplissement du plan de Dieu. Mais sur quoi fixons-nous ce matin, et dans ce temps que nous vivons, sur quoi fixons-nous nos regards ? Sur le Jésus du passé, sur le Jésus dans la crèche, sur le Jésus humain, homme, ou sur le Jésus Fils de Dieu glorifié, manifesté en gloire. Sur quoi fixons-nous nos regards ? Sur les choses du passé, comme la femme de Lot, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je peux faire le choix de ne pas croire que cette parole de l'Évangile que le Seigneur adresse peut s'accomplir premièrement dans ma vie. De vivre une guérison intérieure, physique ou autre, ou d'être libéré d'oppression du passé. Peut-être que nous pouvons dire aussi, personnellement, il y a tellement de choses à changer dans ma vie. Je crois que si on faisait un peu le tour, on pourrait dire aussi, il y a pas mal de choses à changer encore dans nos vies. Y a-t-il encore des choses qui pourraient être obstacles aussi ? Dans ma transformation, dans ma guérison, dans ma progression Le Seigneur nous parlait d'épanouissement ce matin. Je crois qu'il y avait un appel à l'épanouissement, un appel à la restauration, où Dieu voulait faire son œuvre. Nous pouvons dire aussi, je ne verrai pas de changement, non pas seulement dans ma vie, mais aussi peut-être dans mon entourage, dans mon environnement, dans ma famille, parmi mes amis, ou dans l'Église. Alors, le Seigneur est bon dans son Église en Bretagne. Alléluia. Le Seigneur bénit. C'est une Église parfaite. Alléluia. Mais la deuxième chose, qui est aussi un autre choix, je fais le choix de croire, d'oser croire dans l'accomplissement de cette parole. L'accomplissement de la parole, c'est Christ. C'est Christ, c'est la personne de Christ dans la vie de tous ceux qui croient que par lui, le changement est possible. La vie, changement de vie est possible. Nous sommes, mes amis, ce matin, dans une année de grâce. La porte est grande ouverte et nous pouvons obtenir de lui tout ce dont nous avons besoin. La guérison est possible, la délivrance est possible, la liberté, la libération est possible, la grâce de Dieu, le pardon des péchés, la consolation du Saint-Esprit dans l'affliction sont pour aujourd'hui, avant son retour, encore aujourd'hui, pour nous. Alors, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, je crois que nous avons, et personnellement aussi, bien sûr, des choses à changer dans nos vies, dans ma vie. Mais je crois que c'est possible avec Dieu, pour moi-même, mais aussi pour ma famille, pour mes enfants, dans l'Église. C'est possible avec Dieu aujourd'hui, j'ose croire, parce que c'est ça l'appel de Dieu, c'est d'oser croire que ce que Dieu dit est vrai, que c'est le oui de Dieu, que ce n'est pas le non. J'ose croire dans ce qui est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. La foi, c'est regarder à l'invisible, parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et Dieu est éternel, et c'est lui qui nous conduit dans cette voie sainte, dans cette voie de la vie avec lui. Ceux qui étaient dans la synagogue, on revient sur le texte, lui rendaient hommage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce. J'aurais bien voulu être aussi là, entendre le Seigneur parler de vive voix, comme il parlait à tous ceux qui étaient présents, avec des paroles pleines de grâce qui apportaient certainement de la paix, de la consolation, de la guérison. Des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. On lui rendait hommage, mais ces mêmes personnes vont dire de lui, à un moment donné, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Ils s'interrogeaient, ils étaient certainement dans l'ignorance de qui était en face d'eux, le fils de Dieu descendu parmi les hommes. Nous pouvons être... Peut-être, je veux bien dire, comme un peu ces hommes qui rendons hommage au Seigneur dans cette synagogue et qui entendons des paroles régulièrement, peut-être dans chaque rencontre, dans chaque culte, dans chaque rencontre que nous pouvons avoir dans notre vie d'église ou dans nos cultes personnels, recevoir bien sûr des paroles du Seigneur à maintes reprises. Et combien de fois le Seigneur parle telle ou telle manière, n'est-ce pas? Et on a l'impression parfois, du Seigneur, tu te répètes, hein, tu redis les mêmes choses. Et ben oui, nous le savons, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change parfois dans nos vies? Et ces paroles nous font du bien, mais le Seigneur, nous est-il dit, va-t-il trouver de la foi? Va-t-il trouver de la foi dans le cœur de ceux qui entendent la parole du Seigneur? Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Trouvez la foi dans ce que le Seigneur nous annonce. Et dans l'exercice de son ministère, Jésus parlait, certes, mais il agissait. Et selon ce qu'il entendait et voyait de son Père, Et je crois que le Seigneur vient aussi vers nous ce matin, comme au temps il était dans la synagogue, non pas physiquement, certes, mais par son esprit, au milieu de nous. Il vient vers nous, non pas par habitude, ni par tradition, ni par coutume, mais il vient aussi par son esprit pour produire en nous des changements, des transformations. Envers ceux et celles qui, bien sûr, sont prêts à recevoir avec un cœur qui a été travaillé, comme vous savez, comme cette terre qui a été travaillée où la semence est semée et puis elle porte du fruit, un grain 100 et un autre 60. Qui porte du fruit. Le prophète Ésaïe va dire au chapitre 55, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés par-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Car comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, qu'elle n'ait abreuvé, fécondé et fait verdir la terre et n'ait donné de la semence au semeur et le pain à celui qui mange, il en sera de même de ma parole. » Je le redis une deuxième fois. « Il en sera de même de ma parole. Qui sort de ma bouche, elle ne reviendra pas à moi sans effet, sans avoir exécuté et que j'ai voulu et accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. » Alléluia. L'accomplissement de la parole, les effets de la parole qui est semée dans une terre qui accueille, qui reçoit et qui permet que cette semence puisse porter du fruit. Les effets de la parole. Et Paul, l'apôtre Paul d'ailleurs lui-même, qui visite les églises, va encourager une église, l'église de Thessalonique, va lui dire dans 1 Thessaloniciens, il va dire à cette église qui a abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, il va dire à cette église, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu que de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Déjà, c'est important de recevoir. Non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement. Et je crois qu'il insiste, l'apôtre Paul, sur ces paroles, comme qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Je crois que ce qui est important, c'est cela. Que nous puissions recevoir la parole au travers de notre simple foi, la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu si nous n'avons pas la foi, n'est-ce pas? Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, voir Dieu agir. Et là, dans la suite donc de ce message, Jésus est venu pour provoquer des changements, pour bouleverser un peu les habitudes. Il vient pour bousculer les pensées humaines, la logique humaine, les habitudes, les traditions même religieuses. Et c'est ce qui l'amènera d'ailleurs, hein, dans l'accomplissement du plan de Dieu, certes, jusqu'à la mort de la croix. Il sera crucifié parce qu'il a annoncé la vérité qui bouscule les logiques, les pensées humaines. La coutume, selon la coutume. C'est la tradition, n'est-ce pas? C'est la routine, c'est l'habitude, c'est l'automatisme, c'est la pratique. Il y a bien sûr de bonnes coutumes, mais il y a parfois des coutumes ou des habitudes qui nous enferment dans une forme de rituel. Si on ne fait pas, voilà, ça ne va pas aller. Hein, si on ne fait pas les choses comme ça, on va se culpabiliser, on n'est pas dans la liberté. On a pris l'habitude de vivre nos cultes, peut-être. Alors, excusez-moi, peut-être personnel aussi, de telle ou telle manière. Et je me dis, mais parfois, si le Saint-Esprit voulait nous bousculer un peu, si le Saint-Esprit voulait nous déranger un peu dans nos habitudes, dans nos vieilles habitudes du passé. Il m'est arrivé parfois de dire au Seigneur, et vous savez, le Seigneur exauce souvent ce genre de prière, « J'aurais besoin, Seigneur, que tu me bouscules un peu. » Pourtant, ce n'était pas une prière d'intercession. Hein. C'était une simple prière. Seigneur, j'aimerais que tu me bouscules un peu. Parce que là, je sens que là, je me suis ralenti un peu et j'aurais besoin que tu me bouscules un peu. Ben, vous savez quoi? Le Seigneur a exaucé cette prière. Hein. Et j'ai été bousculé. Et parfois, nous sommes aussi bousculés parce que nous sommes dans cet élan de foi. Oui, Seigneur, je veux vivre des choses et j'aimerais être bousculé un peu. Et je pense que le Seigneur nous exauce, non pas pour nous faire mal, non pas pour nous brutaliser. Certes, il est venu pour aussi nous permettre de grandir dans la foi. Alléluia. Est-ce que je suis prêt à être bousculé dans mon train-train religieux? Dans mes habitudes qui me lient parfois, qui m'enferment dans ma façon de voir les autres, ou dans ma manière aussi d'être avec les autres. Peut-être que le Seigneur veut changer cela aussi. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Alléluia. Le Seigneur n'a pas eu peur d'annoncer qu'il était porteur de ce message de grâce et de libération. Jésus est venu faire une nouvelle alliance avec nous. Avec nous par le sang de la croix. Je voudrais vous donner une autre pensée sur l'accomplissement de la parole qui se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel. Vous allez me dire, mais pourquoi on va de l'évangile de Luc au prophète Ézéchiel? Je crois qu'il y a l'accomplissement aussi d'une parole aussi qui est aussi transmise et qui est apportée de la part du prophète Ézéchiel au chapitre 37. Et ce passage nous parle de ce prophète, ce grand prophète. Oui, il a eu des visions extraordinaires, qu'on ne peut pas tout expliquer là ce matin, mais c'est aussi mystérieux de voir aussi ce prophète conduit par l'Esprit de Dieu et parfois saisi hein, par les cheveux, hein, par l'Esprit de Dieu et conduit dans un endroit, avoir des visions, des révélations extraordinaires. Et il nous est parlé là dans cette partie du chapitre 37. Il est conduit dans une vallée remplie d'ossements desséchés, d'ossements secs. Et rien ne représentait la vie dans cet endroit, dans cette vallée en tout cas, mais la mort. Ézéchiel respirait même la mort autour de lui dans cette vallée. C'est un triste constat de ce moment, de cette vision qu'il peut avoir là, dans cette vallée. La mort a pris la vie où l'espoir est transformé en désespoir, le secours en perdition. Et là, dans cette vallée, Dieu va dire à son prophète, Ézéchiel, ces ossements ou ces os, pourront-ils revivre? La réponse d'Ézéchiel est directe. Seigneur éternel, tu le sais. Toi, tu le sais. Moi, je sais pas. Hein. Mais toi, tu le sais, hein. On peut être aussi parfois comme ça, hein, en disant, mais je ne suis pas certain que les choses peuvent changer, mais Seigneur, toi, tu sais toutes choses. Refaire revivre ce qui est mort, ça peut être l'image, en tout cas, de notre monde actuel dans lequel nous vivons. Nous vivons dans une sorte de vallée aussi, hein, n'est-ce pas, où ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas le Seigneur, eh bien, peuvent être un peu à l'image de ces eaux desséchées, où il n'y a pas de vie. Peut-être ces hommes et ces femmes qui espèrent en des choses qui sont éphémères et passagères, qui ne tiennent pas. Nous pouvons être dans cette vallée aussi. Oui, la mort peut régner sur la vie à cause, bien sûr, nous le savons très bien, à cause du péché. Le péché qui nous sépare de Dieu, qui nous conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais le salaire du péché, c'est la mort. Et je crois que Dieu conduit aussi son Église, nous l'Église, aussi dans cette vallée d'ossements desséchés. Comme Ézéchiel, il nous pose aussi à nous, peut-être ce matin, cette question, nous l'Église du Seigneur, ces eaux pourront-ils revivre? Et quelle va être notre réponse? Non, je ne crois pas. On peut dire ça, hein. On peut très bien dire aussi, Seigneur, toi tu le sais. Ézéchiel a eu cette démarche aussi de « Seigneur, toi, tu le sais, tu es tout puissant, tu le sais, tu as connaissance de ce qui peut se produire là, dans ce moment de tohu-bohu, excusez-moi l'expression, mais c'est aussi dans ce sens de signification de la mort, c'était possible que Dieu fasse quelque chose. Seigneur, tu le sais. » Mais je crois que Dieu veut aller plus loin et Dieu va dire à son prophète, eh bien, il va ordonner au verset 4, il dit « Bah toi, prophétise sur ces eaux, ou parle de ma part sur ces eaux, et dis-leur, parle, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. » Écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel a entendu ce que Dieu lui a demandé et il a prononcé de la part de Dieu ce qu'il devait annoncer à ses eaux, même s'il disait « Seigneur, tu le sais ». Il a annoncé à ses eaux ces choses. Ce qui est déterminant dans cette vallée remplie d'ossements, ce sera la parole prononcée par la bouche du prophète de la part de Dieu à ses eaux desséchées. Pourquoi ? Parce qu'il a entendu lui-même, parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Dieu lui parlait pour lui permettre que cette parole puisse être prononcée aussi de la part de Dieu pour Israël. Bien sûr, ça nous parle bien sûr du peuple d'Israël. Il nous a dit que des choses vont changer lorsque la parole va être prononcée. Il nous a dit, ça commence par un bruit, un mouvement au verset 7. Les eaux s'approchent les uns les autres, verset 8. Des nerfs se forment, toujours au verset 8. La chair et ensuite la peau, mais pas d'esprit en eux. Et on ne sait pas combien de temps ça a demandé pour refaire un corps, mais aussi refaire une armée nombreuse, parce qu'elle était, c'était une armée nombreuse. Mais ce qui est important, c'est que Dieu a accompli un miracle. De ce qui semblait impossible et insignifiant, Dieu a fait un miracle et il fera la promesse aussi la promesse de faire sortir son peuple de la captivité et de leur sépulcre. C'est la promesse d'un retour d'Israël vers la terre promise en Israël, alors qu'il était en captivité. Je ne pense pas que nous sommes, j'espère en tout cas que nous ne sommes pas de ceux qui avons les eaux desséchées, qui sont secs. Ça pourrait signifier aussi que peut-être notre communion avec le Seigneur est un peu refroidie et que nous sommes loin du Seigneur et que nous l'avons offensé, que nous nous sentons secs, que l'Esprit de Dieu n'est plus à l'œuvre en nous. Et peut-être que le Seigneur peut nous interpeller aussi, bien sûr. Mais je crois que Dieu appelle aussi à croire, nous appelle à croire qu'au travers de notre témoignage, qu'au travers de notre vie en Christ, nous puissions apporter quelque chose de bon autour de nous. Quelque chose de la vie de Dieu. Non pas que nous sommes quelque part de ceux qui pouvons faire ou qui pouvons guérir, mais nous pouvons guérir de la part du Seigneur. Nous pouvons prier pour les malades afin que les malades soient guéris. Amen. On y reviendra tout à l'heure. Redonner la vie à ceux qui étaient morts. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point. Alors nous pouvons peut-être réfléchir, mettre devant nos yeux, devant nous, les choses qui nous semblent peut-être dans notre vie ou dans notre entourage impossibles à changer. Ça peut être nos enfants, ça peut être dans notre famille, nos amis, peut-être aussi peut-être des personnes que nous connaissons bien, qui sont proches de nous. Seigneur, tu le sais, mais je veux prononcer une parole. Je veux prier au nom du Seigneur pour que ça puisse changer et de croire que les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu nous appelle à nous réveiller et à nous lever aussi. L'Église n'est pas morte. J'entends souvent, parfois, certains chrétiens, souvent, même trop souvent d'ailleurs, certains chrétiens disent « on ne vit rien dans l'Église, il n'y a pas d'amour dans l'Église ». Il n'y a pas d'amour. J'ai souvent entendu cela dans mon ministère aussi, en tant que pasteur. Oh, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour fraternel. Ça manque d'amour, ça manque de communion, il n'y a pas de vie. On vit rien. Vous avez certainement entendu ce genre de conversation, n'est-ce pas? Moi, j'ai souvent entendu, malheureusement, mais l'Église n'est pas morte. Alléluia. L'Église est vivante. Elle a reçu la vie de Dieu qui met un arrêt sur ce qui nous empêche de vivre et d'être libre. L'Église est porteuse d'un message de vie, porteuse d'un message de vie et de résurrection, comme Ézéchiel qui va prononcer sur ses os ses paroles. Et ce corps va se reformer en bonne santé. Alors, ce message a son accomplissement dans la mort, mes amis. On revient à l'essentiel. On revient à la grâce de Dieu qui nous est offerte. Ce message dont on est porteur, c'est à son accomplissement dans la mort et dans la résurrection du Seigneur. Alléluia. Et je crois que nous pouvons nous-mêmes proclamer cette vérité à un monde sans espérance. Alors levons-nous pour répondre à son appel et d'être ses témoins, et que la renommée du Seigneur, comme il nous est dit dans ce passage, et que la renommée du Seigneur se fasse connaître autour de nous. Non pas pour qu'on puisse nous voir nous, mais puisqu'on puisse voir Christ au travers de nous, qui sommes des vases d'argile. Nous portons en nous ce trésor, de la présence de Christ en nous. Mes amis, ce matin, le ministère du Seigneur se poursuit. Le Seigneur poursuit son œuvre au travers de l'Église. Nous avons, les uns et les autres, des choses à vivre de la part du Seigneur. Bien sûr, notre témoignage, notre vie de prière, par les dons aussi que nous avons reçus de la part du Seigneur, comme nous l'avons entendu ce matin dans les dons qui ont été exercés, par les ministères que le Seigneur aussi a donnés à l'Église. Le Seigneur veut multiplier sa grâce aussi au travers de toutes ces choses pour que son œuvre puisse prospérer, grandir et que son nom soit glorifié. Alors je voudrais terminer avec ce passage que vous connaissez très bien, Marc 16. Marc 16, versets 15 à 20, nous dit « Il dit aux disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. » Je pourrais arrêter ma lecture là. Le Seigneur est assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Je poursuis. Le Seigneur travaillait avec eux. Merci Seigneur, parce que tu es encore avec nous. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il confirmait les miracles. Confirmait, pardon, sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alors aujourd'hui, mes amis, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je me lève, je crois au changement, dans l'accomplissement de la parole de Dieu, dans ma vie, dans ma famille, dans l'Église. Soyons de ceux qui, et de celles, bien sûr, qui sont dans la bonne direction de l'Esprit, qui va nous conduire à vivre des choses nouvelles avec lui. J'aimerais prier. Merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est la vérité. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tout ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Nous voulons le dire de ta part, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es celui qui accomplit les choses. infiniment et qui fait les choses infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Nous croyons, Seigneur, aussi que tu veux des cœurs obéissants, que tu veux des cœurs livrés, que tu veux des cœurs abandonnés, que tu veux des cœurs ouverts à l'action de ton esprit dans ma vie, Seigneur, dans notre vie. Alors merci, Seigneur, parce que le ciel est ouvert et que tu as tout préparé d'avance. Tout est accompli. Et Seigneur, nous pouvons dès maintenant saisir, non pas avec notre intellect, non pas avec nos croyances humaines, mais Seigneur, avec cette foi que tu mets dans nos cœurs, cette foi qui saisit, qui prend la promesse, qui prend les choses que tu veux nous donner dans ta grâce, pour recevoir, peut-être avons-nous besoin de ta guérison, Seigneur, alors nous pouvons recevoir. Peut-être avons-nous besoin d'une réponse à la prière, alors nous pouvons recevoir. Alors peut-être avons-nous besoin, Seigneur, d'une intervention miraculeuse dans nos familles, alors nous pouvons recevoir de ta part, Seigneur, parce que tu as tout accompli. Mais peut-être, Seigneur, il nous faut encore attendre, certes, mais nous allons recevoir parce que tu es fidèle. Alors merci, Seigneur, pour ce temps de ta bénédiction que tu répands, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies, pour nous permettre d'avancer, de progresser dans la foi, non pas de rester au stade d'enfant, mais de ceux, Seigneur, qui ont mûri, de ceux qui ont grandi par l'expérience, par les temps d'épreuve, par les temps de désert, Seigneur, qui ont appris, Seigneur, et qui, Seigneur, par cet enseignement, Seigneur, ont grandi en toi et portent du fruit pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons parce que tout vient de toi, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dieu vous bénisse.